On est en tir de barrage à l'heure actuelle, en demi-finale de la Coupe Linka-Gretzky entre le Canada et les États-Unis. Le premier joueur du Canada qui est allé en tir de barrage n'a pas été en mesure de marquer. On va suivre ça de très près avec vous, mais pour le moment, je suis très content de le recevoir à l'émission. Les Alouettes ont un gros test devant eux demain soir à 19h alors qu'ils seront de passage au BC Place à Vancouver pour affronter les Lions de la Colombie-Britannique. C'est Frédéric Daigle de la presse canadienne qui est avec nous et qui couvre les activités des Alouettes. Salut Fred!
Salut FX, comment ça va?
Ça va bien, je suis content de te parler en ondes. Je disais que c'est la première fois dans le rôle d'animateur que j'avais l'occasion de discuter avec toi, puis je suis content qu'on puisse le faire alors que ça a été, Fred, une grosse semaine pour les Alouettes. Il y a eu ce bilan de mi-saison. Danny Machocha, pas vraiment content de la tenue de son équipe. Mais avant d'y aller avec le bilan de mi-saison et tout ça chez les Alouettes, ça a été annoncé un peu plus tôt cette semaine. On peut faire un constat d'échec, je crois, en l'endroit de McLeod Bethel-Thompson, qui n'a pas été en mesure d'aller chercher des victoires importantes. On l'avait signé pour prendre la relève dans une éventuelle blessure à Davis Alexander. Et là, on va confier le rôle de partant à Caleb Evans en vue du match de demain.
Ouais, c'est... Tu sais, quand les Alouettes ont échangé Cody Fajardo aux Elks en retour de McLeod Bethel-Thompson,
ouais.
Moi, j'étais convaincu que Bethel-Thompson, c'était un peu un dump-in là, dans cette transaction-là, puis que les Alouettes étaient pour, même pas pour le garder, étaient pour le libérer, parce que, tu sais, dans l'organigramme, là, après Fajardo, t'avais Caleb Evans, t'avais Davis Alexander, et puis moi, je pensais qu'on était pour garder un peu le même organigramme, puis donner un peu plus de temps de jeu, ou en tout cas, donner un peu plus de répétition à tout le monde aux entraînements à James Morgan, qui était déjà avec l'organisation l'année passée. Alors, là, je me suis dit, bon, ben, on a vu quelque chose dans Bethel-Thompson que nous, on n'a pas vu parce que l'année passée à Edmonton, c'était pas glorieux non plus, là. C'était pas le Bethel-Thompson vainqueur de la Coupe Grey avec les Argos il y a quelques années qu'on a vu sur le terrain. Et puis, quand on a été contraint de le faire jouer à cause des blessures à Davis Alexander, bon, ça a été un désastre, là. Écoute, une victoire en cinq départs.
Ouais.
Tu sais, c'est. J'ai utilisé cette analogie-là. Là, les Alouettes ont payé une prime d'assurance en McLeod Bethel-Thompson. Puis quand est venu le temps de recevoir des compensations, ils n'ont pas été capables de collecter leur compagnie. Ils ont payé dans le vide. Alors, puis l'autre question, moi, que je trouve... tu sais, Danny en a parlé sur vos ondes, Danny Machocha.
Ouais.
Ça semblerait que ça fait quelques semaines qu'on sait que Bethel-Thompson n'est pas à 100%. Mais pourquoi on le faisait jouer alors? Tu sais, ça c'est une question qui me taraude un peu. C'est un corps arrière dont le coude droit, dans son cas, de Bethel-Thompson, n'est pas à 100%. Tu n'as déjà pas tes deux premiers receveurs dans la formation. C'est un gros risque, je trouve, d'avoir pris de... Bon, écoute, les Alouettes gèrent bien les blessures, là, surtout sous l'ère Machocha. On peut pas leur reprocher ça, mais celle-là, j'ai un peu de misère avec celle-là. Et puis là... Ça m'amène une autre question, moi, c'est Caleb Evans, on le voyait où chez les Alouettes dans l'organigramme si Bethel-Thompson, en fin de carrière, est passé en avant de lui? Je sais qu'Evans a bien fait quand on l'a amené comme partant l'année passée, mais c'est quand même, tu sais, à ses saisons comme partant à Ottawa, c'était pas, il faisait pas partie de l'élite de la Ligue, et il n'en fait toujours pas partie, là, malheureusement, avec tout le bon vouloir qu'on peut lui donner, c'est pas un quart de premier plan dans la Ligue canadienne de football.
Mais c'est ce que j'allais te demander. On était-tu mal pris à ce point-là? La confiance qu'on avait envers Caleb Evans était-elle aussi basse que ça pour qu'on attende aussi longtemps, sachant que McLeod Bethel-Thompson avait des soucis de santé, sachant aussi que du côté des Alouettes, oui, on voulait faire confiance aux vétérans, mais ils n'étaient pas en mesure de donner les résultats escomptés. Est-ce qu'on a attendu trop longtemps avant de décider que Caleb Evans serait le partant et de le faire lors du prochain match, alors qu'on est au 10e match de la saison régulière?
Ben, je pense que le fait que Tyson Philpott et Austin Mack ouais. soient blessés chez les Alouettes, ça a probablement, en tout cas c'est mon interprétation, retardé l'entrée en scène de Caleb Evans, parce que un gars qui est étiqueté numéro 3 au début de la saison, qui devient numéro 2 à cause d'une blessure, tu veux pas le mettre comme partant quand il n'y a pas tous les éléments sous la main pour tirer son épingle du jeu. Tu peux pas demander à un gars de faire des miracles non plus. Aussi bon soit Tyler Snead, aussi bon soit Cole Speaker, Philpott et Mac restent les deux meilleurs receveurs de cette équipe-là. Alors, si t'as pas tes meilleurs receveurs, tu sais, au corps, au football, là, que peu importe la ligue dans laquelle tu joues, là, que ce soit collégial 2B ou dans la NFL,
ouais.
quand ton corps numéro 1 est blessé et tes deux premiers receveurs sont blessés, c'est rare que tu connais du succès sur le terrain. Alors, on s'est dit sûrement, selon moi, L'expérience de Bethel Thompson va venir compenser ces pertes-là en attaque, mais ça n'a pas été le cas. Alors là, quand à un moment donné, la très mauvaise performance contre les Elks la semaine passée en première demi de Bethel Thompson, jumelée à sa blessure qui était assez importante pour qu'on inscrive son nom sur la liste des blessés pour s'y rendre compte, à un moment donné, tu n'as plus le choix, là. Il faut que tu donnes le ballon à Caleb Evans.
Oui, je félicite quand même Danny Machocha qui est venu au micro et qui a discuté avec Alex Langteau et qui a mentionné comme quoi on n'avait pas retiré Bethel Thompson dû à sa blessure, on l'a retiré dû à la mauvaise performance qu'il avait dans le dernier match. On n'a pas voulu mettre ça nécessairement sur sa blessure, mais on a parlé également à quel point ça avait été difficile pour lui lors de la première demi du dernier match. Maintenant, Caleb Evans, on s'attend à quoi, Fred, pour le match de demain contre les Lions?
Écoute, Caleb Evans, Davis Alexander, Anthony Calvillo, c'est historiquement difficile pour les Alouettes à
À BC,
Vancouver.
ouais.
Ils ont une fiche de 9 victoires, 32 défaites, une nulle dans leur histoire. Ils n'ont pas perdu à leurs 6 derniers matchs. Leur dernière victoire a été acquise en 2015. Et avant ça, c'était au début des années 2000. Je veux dire, c'est difficile pour les Alouettes sur la côte ouest. Est-ce que c'est le déplacement? Est-ce que c'est le décalage horaire? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais peu importe qui était là comme quart numéro un, c'était difficile. Alors, Caleb Evans demain a Caleb Evans et les Alouettes ont toute une tâche devant eux parce que les Lions vont bien présentement et c'est certain que c'est un match, eux autres, qui doivent, sans l'avoir inscrit d'avance, là, ils doivent compter pour l'ajouter dans leur colonne de victoire parce que c'est tout joue contre les Alouettes demain.
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Surtout qu'ils ont retrouvé leur carrière numéro un depuis quelques semaines déjà. Ça fait un énorme bien quand même aux Lions de la Colombie-Britannique qui ont déjà battu les Alouettes un peu plus tôt cette saison sur la montagne. J'ai comme.
Ouais, une victoire in extremis, mais ils l'ont gagné pareil là, sur
Exact.
le boté
Ça...
avec 2 dixièmes de seconde de Sean White. Là.
Exactement. Victoire de 21-20 à ce moment-là. Il y a encore des gros noms, Fred, sur la liste des blessés chez les Alouettes. Tu as parlé d'Austin Mack, Tyson Philpott. Concernant la mise à jour de ces gars-là, est-ce qu'on peut s'attendre à les voir éventuellement dans les prochaines semaines? As-tu un peu de mise à jour concernant les blessés d'importance chez les Alouettes?
Vois-tu, Philpott, Kébion Ntó, le demi-défensif, et Marc-Antoine Decouat, le maraudeur, ont pris part de façon limitée à l'entraînement cette semaine.
Parfait.
Ça, c'est encourageant. Par contre, comme Austin Mack, on ne l'a pas vu. Justin Lawrence, on l'a pas vu. Tyrell Richards, le secondaire, on l'a pas vu. Sean Tomerlington, on l'a pas vu à l'entraînement. Alors, ça, est-ce que ces gars-là vont rater plusieurs matchs? Ça reste à voir. Les Alouettes ont ajouté récemment aussi Deontay Ruffin sur la liste des blessés pour 6 rencontres. Alors, je veux dire, chaque équipe est aux prises avec des blessures importantes, mais on dirait que les Alouettes, cette saison, c'est à plusieurs positions clés qu'on est touché. Alors, évidemment, comme demi-offensif, là, la perte de Sean Tomerlington, ben, t'as Travis Tice qui va très bien, puis t'as Stevie Scott, le troisième du nom, qui a connu un très bon camp aussi, puis qui a bien fait quand il a été utilisé. Alors, ça semble être une moins grosse perte peut-être de ce côté-là, mais Tomerlington connaissait une très bonne saison, un peu une renaissance là, du côté de Tomerlington qui a dû faire face à de graves blessures ces dernières saisons. Puis là, ben, il vient d'être stoppé un peu dans son air d'aller. Espérons que Thaïs va pouvoir rattraper le lousse, comme on dit, mais c'est peut-être la position où on a une blessure qui fait le moins mal chez les Alouettes présentement.
Ouais, tu as parlé des nombreuses blessures chez les Alouettes, là. On en a parlé, Davis Alexander, Tyson Philpott, Austin Mack, Marc-Antoine Decouat, Justin Lawrence, Sean Tomerlington, Mustapha Johnson. Danny Machocha disait un peu plus tôt sur nos ondes cette semaine qu'il donnait la note de C aux Alouettes pour son bilan de mi-saison. Trouves-tu que c'est un peu sévère compte tenu de la liste de blessures que je viens de t'énumérer chez les Alouettes?
Ben, oui et non, c'est une réponse plate, là, oui et non, mais
Ouais.
effectivement, tu regardes les Alouettes, ont une fiche de 5 victoires, 4 défaites.
Ouais. Qui pourrait être
Oui,
7-2
c'est
là, parce
vrai,
qu'ils ont perdu
ça
deux matchs
pourrait.
dans les dernières
Ouais.
secondes quand même là.
Ouais, c'est vrai que ça pourrait être 7-2, mais ça pourrait être aussi être 3-6, là.
Ouais.
Il y a eu des matchs serrés des deux côtés. Je veux dire, on n'a pas été. Tu sais, l'année passée, à pareille date, je pense qu'on était 8 victoires, 1 défaite. On
Ouais.
était dominant. Tu sais, je veux dire, on était vraiment une coche en haut du reste de la ligue. C'est pas le cas cette saison. Remarque, ça veut rien dire, là. Les Argos sont entrés en éliminatoire presque par la porte d'en arrière, là, par défaut, dans une section S très, très faible l'année passée. Ils sont allés chercher la Coupe Grey. Là, je dis pas que les Alouettes sont en route pour Winnipeg pour le match de la Coupe Grey, mais cela dit, est-ce que l'affiche à mi-saison est vraiment importante? T'sais, on a dit chez les Alouettes qu'on allait être excessivement prudent avant de ramener Davis Alexander sur le terrain. Puis Davis Alexander, le contrat qu'il est allé chercher, puis la transaction qu'il a forcée chez les Alouettes, ben c'est pour qu'il gagne les matchs en septembre, octobre, novembre, pas en juillet, août. Alors, chez les Alouettes, je pense que c'est vraiment ça. On mise sur un retour en santé des effectifs pour la fin du calendrier. Et plusieurs observateurs de la Ligue canadienne de football disent que cette saison-là commence vraiment juste après le congé de la fête du travail. Mais ça, c'est dans 3 semaines. Alors, dans 3 semaines, Davis Alexander va être très près d'un retour au jeu. On espère que Phil Potts sera de retour, de quoi la même chose, et peut-être qu'Austin Matt sera près d'un retour également. Ça change le visage de l'attaque des Alouettes du tout au tout si ces trois gars-là reviennent.
Oui, bien d'accord avec toi. En terminant, prédiction pour le match de demain. Je sais que tu étais plus ou moins optimiste, là, compte tenu de l'affiche des Alouettes à BC, là, mais as-tu une prédiction pour le match de demain?
Ah, moi, je pense que demain, ça sera pas joli, là. Je pense que les Alouettes vont perdre par 2, 3 touchés.
Aïe,
Ça va
aïe,
être
aïe.
Nathan Rourke qui est en
Ouais,
pleine possession
ouais.
de ses moyens. L'attaque était à plein régime chez les Lions. En tout cas, si les Alouettes vont chercher ce match-là, j'ai l'impression que la défense va avoir eu un très, très gros mot à dire, mais j'ai pas de grands espoirs, malheureusement, pour demain.
Frédéric Daigle de la presse canadienne, un gros merci pour ton temps aujourd'hui. Super apprécié. On remet ça lundi pour revenir sur le match des Alouettes samedi.
Excellent, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Fred Daigle, qui était avec nous pour évidemment mettre la table pour ce match des Alouettes demain, 19h, je vous le rappelle, contre les Lions à BC. Alors, un gros test qui attend les Alouettes. On s'arrête quelques instants. Au retour, nouveau segment qu'on fait avec David Gilbert. On va s'amuser, on va y aller de prédictions audacieuses en vue de la prochaine saison dans la NFL. Bougez pas.